Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Marc, chapitre 16. On va terminer aujourd'hui notre dernier thème sur l'autorité spirituelle. C'est très bien, super. Marc, chapitre 16, relisons les versets 14 à 20. Marc 16, verset 14. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnent. Alléluia. Le dernier sujet, c'est ce que nous voulons de lire, le cinquième signe. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors ça, on aime bien ça. D'ailleurs, souvent, quand on parle d'autorité, de puissance, ah oui, oui, on a eu l'autorité sur la maladie. Alors, tout de suite, c'est peut-être un des premiers points. Et c'est amusant parce que dans la liste du Seigneur, c'est le dernier. On reviendra tout à l'heure sur ce qui a été dit avant. Ce qui est à retenir dans cette phrase, c'est que ce domaine d'autorité est donné à tous ceux qui croient. Et cela concerne toutes les maladies. Morale, psychique, que ce soit du grand-père, de l'aïeul, que ce soit suite à un accident, Dieu est capable d'apporter la guérison. Que personne non plus se dise « Ah oui, mais moi je suis qu'un simple croyant. » Comment ça tu es un simple croyant? Tu as Dieu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu n'es pas plus ou moins que le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète ou quoi que ce soit. Dieu t'a donné, parce que tu crois, cette autorité.
Amen.
Oui, mais moi, ça fait que 3 mois que je suis converti. Mais dès le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus en toi, il t'a donné toutes les armes qu'il faut avec. Il t'a donné tout l'équipement. Il ne suffit pas quand on est embauché dans une entreprise pour une certaine fonction, on n'attend pas 3 ans pour avoir les possibilités de faire notre fonction. Dès qu'on a signé le contrat, on est employé et on a toutes les armes, tous les outils, tous les moyens pour exécuter notre tâche. Notre tâche est d'annoncer le message de l'Évangile, amen. Dès que vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous avez cette autorité. Parce que ce ne sont que des armes, des équipements que Dieu vous a donnés pour remplir cette mission. Alors non, ce n'est pas réservé à pasteur ou à quelques-uns. Il est vrai, Dieu nous parle ailleurs. C'est Paul qui développe le thème. Que certains vont peut-être recevoir une dimension charismatique un peu plus importante parce qu'il nous est parlé du don des guérisons. Alors, effectivement, aspirons à ça. Et là, il y aura une démonstration, une marque plus particulière sur ce frère, sur cette sœur, qui en priant, oui je fais exprès de préciser frère et sœur parce que comme ça tout le monde est bien compris dedans, hein, les sœurs aussi peuvent prier pour les malades.
Oui.
Amen.
Non, je sais que je vais être un peu provocateur, mais je ne veux pas froisser la susceptibilité de personne, mais ils imposeront les mains aux malades, tous ceux qui croient. Donc c'est tous les hommes
les êtres
humains.
Tous ceux. Donc ça veut dire que les femmes peuvent imposer les mains ?
Tous ceux.
Ok, on est d'accord. Non, mais c'était juste pour être bien sûr qu'on lise la même chose. Et qu'on n'est pas en train de chercher à forcer un trait de caractère. Hein. Tous ceux qui croient imposeront les mains, ils seront guéris. Donc je crois que dans ce tout, c'est tous les croyants et que parmi les femmes, elles font partie de ce tout. On est d'accord ? Ok. C'est juste pour pas froisser des susceptibilités, mais que les choses soient claires. Donc Dieu nous a donné cet équipement et ce n'est pas réservé à des pasteurs, à une élite, à quelques-uns. Il y a cette dimension de foi. Il n'y a pas besoin non plus de technique spéciale, d'entraînement. Alors je vais m'entraîner sur la chaise, si elle est réparée, ça marche. Il y a un courant évangélique où effectivement on aime beaucoup l'autorité spirituelle, on aime la démonstration de puissance, on axe beaucoup sur la guérison. Et alors on fait des séminaires de ceci, des centres de formation pour cela. Et bien souvent c'est super payant. Alors, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'apprentissage particulier.
Amen.
On va le voir, c'est la foi qui fait toute la différence.
Amen.
Alors bien sûr, si vous avez à cœur de développer la chose et que vous sentez que vous avez besoin de plus, ne croyez pas que c'est dans un centre spécial où vous allez passer une semaine, trois mois, où on va vous parler de la guérison, que vous allez soudainement avoir une puissance dans la guérison. Ça n'a rien à voir, parce que celui qui donne la puissance, c'est qui ?
Dieu.
C'est le Seigneur. S'il ne vous a pas donné le don de guérison, vous serez, comme chaque chrétien, à la possibilité de prier, et vous verrez des guérisons. Ce n'est pas ce qui fera la guérison. Par contre, et il faut reconnaître, et en fait, ce que je veux dire, c'est pas, je ne veux pas jeter un mauvais regard sur une chose, mais il faut comprendre le principe. Par contre, oui, je crois que ce genre de formation peut réveiller la foi des croyants dans cette dimension spirituelle et réaliser qu'ils ont l'enseignement spirituel, l'enseignement biblique qui les encourage à prier pour les malades, qu'il y a une dimension de foi à avoir dans la guérison. Et effectivement, si vous allez dans ce but-là de fortifier votre foi, alors c'est bien. Mais n'y allez pas en croyant, en allant là-bas, il y aura forcément un truc spécial, parce que là, ils ont une onction particulière. Il n'y a pas d'onction particulière. L'onction, elle vient du ciel.
Amen.
Et le seul terrain propice à l'onction, c'est notre état de cœur, notre disposition de cœur. Alors, ne vous laissez pas achalander. C'est vrai que c'est très, très porteur, très achalandant de dire « Ah ouais, là-bas, il y a tous ces trucs-là. » Mais c'est sûr que quand on fixe tout sur la guérison, ça suscite la foi dans la guérison. C'est normal. Et quand il y a une attente du peuple de Dieu à quelque chose, Dieu répond. Et quand tous les malades s'attendent à la guérison et que le public et ceux qui prient s'attendent aussi à la guérison, qu'est-ce qui se passe ? L'acte de foi qui est le fruit de la manifestation de Dieu. Donc ne soyons pas focalisés que là-dessus, parce que ce n'est pas la foi dans la guérison qui sauve. C'est la foi dans l'œuvre de Jésus qui sauve. Hein ? Et la guérison miraculeuse que Dieu suscite dans les corps des hommes est là pour susciter la foi dans le salut. D'accord ? On peut être guéri et aller en enfer. Hein ? Et on peut aller au paradis sans avoir eu la guérison. Et l'essentiel, c'est l'œuvre de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est la première raison pour laquelle il est mort. Et dans sa bonté, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Amen. Est-ce que la guérison est forcément systématique ? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça paraît tellement beau, tellement simple. Et on se dirait, c'est formidable, il n'y a plus besoin d'hôpital. Ben oui, ce serait bien. Je vous rappelle juste que Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et que c'est le diable qui est le prince de ce monde. Est-ce que c'est systématique que chaque fois que nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris ?
Non.
Il y a trois éléments à prendre en compte. La foi de celui qui prie, la foi de celui qui reçoit, et au-dessus de tout ça, la volonté même de Dieu. Il n'y a pas, et personne ici-bas n'est suffisant pour être capable de rassembler tous ces éléments en une circonstance. Après, il y a plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont été guéris alors qu'eux-mêmes n'avaient pas la foi. Il nous est montré des situations où Paul, est-ce que Paul était un homme qui avait la puissance de guérir ?
Amen.
Ok, ben on lira en 2 Timothée, chapitre 4, verset 20, qu'il a laissé un gars malade. J'ai laissé Trophime malade à... Ah bah il avait pas l'onction lui, comment ça pas l'onction? Il donnait un mouchoir, la personne était guérie. Et lui là, bah j'ai laissé Trophime malade là-bas. Lui-même était malade. Et Jésus l'a dit, ouais, ma grâce te suffit. Il y a de temps en temps des hommes de Dieu qui sont utilisés pour des missions particulières. Alors là, il y a des miracles, il y a des conversions, c'est le réveil. Ils rentrent dans leur pays et là, il n'y a plus tout ça. Qu'est-ce qui explique tout ça? Il y a la foi de ceux qui reçoivent, il y a la foi de celui qui communique, et il y a la volonté de Dieu. Donc il n'y a point non plus de notre aspect une part de culpabilité, nous sommes appelés à nous remettre en cause, ça c'est sûr, mais il faut que nous gardions des repères saints. Quand on parle de Jésus, et que la parole de Dieu nous dit que Jésus priait pour tous les malades et que tous les malades étaient guéris, ben cela revient tout simplement à nous faire bien comprendre que la souveraineté de tout ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus est Dieu. Donc quand lui décidait de prier pour quelqu'un, c'est qu'il avait la volonté de faire quelque chose au travers de cette personne. Donc c'est tout à fait normal que quand Jésus priait, tous les malades, même ceux qui n'étaient pas croyants, on voit des situations comme ça où c'était des gens qui avaient la foi pour quelqu'un qui l'amenait. Et des fois même Jésus n'avait même pas besoin de communiquer quelque chose, mais comme il était là et qu'il répondait à la foi, donc il y a tout un enseignement au travers de cela. Mais comprenons que si Jésus, lui, avait le pouvoir de guérir tous les malades qui venaient à lui, c'est parce qu'on rentre dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sera toujours au-dessus de tout. On peut prier pour quelqu'un qui s'attend à la guérison, on peut mettre toute notre foi pour cette guérison, et la guérison ne viendra pas. Parce que Dieu a un autre plan, un autre projet au travers de cela. À lui soient les choses cachées. Hein. Amen. Et nous sommes juste appelés à vivre dans sa dépendance, ce qui est le plus beau des miracles. Toutefois, le texte attire notre attention sur un détail que je voudrais pouvoir développer ce matin avec vous. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on a vu la notion de la guérison. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas tout simplement dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris? Mais Jésus a bien dit, ils imposeront les mains aux malades. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans l'imposition des mains? Non, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de dépendance à quelque chose, à un geste, à une initiation. Faisons même attention de ne pas nous laisser imposer les mains par n'importe qui. Car même dans les dimensions occultes, il y a des pratiques d'imposition, et on verra pourquoi. Et même Paul dira à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Hein. Donc il y a quand même une réalité dans l'acte, mais qui n'est pas d'ordre magnétique, pouvoir, transcendance, quoi que ce soit. On voit Jésus qui, de temps en temps, priait pour des gens qu'il ne voyait même pas, ils étaient guéris, des fois il imposait des mains, des fois il mettait de la salive sur les yeux, s'il y a des adeptes, je peux vous faire ça en fin de journée si vous voulez. Il y a des gens qui touchaient Jésus, lui il les touchait pas, enfin voilà, ce n'est pas l'imposition des mains, il y a quelque chose de concret, mais il y a une autre réalité derrière l'imposition des mains. Replaçons-nous un peu dans le contexte. Le contexte d'il y a combien d'années là? 2000 ans. Les plus anciens pourraient peut-être nous raconter avec plus de détails et de souvenirs plus précis l'état de la médecine il y a peut-être 60 ans, 70 ans. Vous avez déjà vu les hôpitaux là pendant la Première Guerre mondiale? Ok, et il y a quoi? Il y a un siècle de ça. Donc là, on revient à 2000 ans en arrière. Ok? Là, quand on va à l'hôpital, même après une opération du cœur, tout est propre, tout est blanc, il n'y a même pas une goutte de sang nulle part. Imaginez un seul instant la situation d'un malade il y a 2000 ans. C'est facile pour nous de toucher les gens dans notre société moderne. Tout est propre, tout est aseptisé, ça sent même bon. On a les parfums quand ça va pas trop bien. Mais il y a 2000 ans, forcément les plus malades étaient les plus pauvres. Avec la chaleur, avec la poussière. J'ai eu l'occasion, une fois dans ma vie, d'aller au Burkina Faso, dans la région du Sahel, de visiter ce qui était un hôpital, enfin c'était une structure de béton et puis des lits dedans, avec très peu de soins. Et il y avait une femme qui était là avec sa jambe, ça purulait quoi. Et comme il n'y avait pas les soins qu'il fallait, la plaie allait jusqu'à l'os. Et il y avait 2-3 bandes qui étaient dessus, et tu avais les mouches qui étaient là. Parce que... Mais ça, c'était il y a 10 ans, 15 ans. Pour nous, c'est facile de toucher un malade aujourd'hui. Mais Jésus va dire à ses disciples, vous imposerez les mains aux malades. Et maintenant, on accentue le trait, parce que Jésus parle essentiellement à des juifs. Des juifs qui ne devaient absolument pas toucher n'importe quoi. Parce qu'un juif devait vérifier s'il n'y avait pas une perte de sang, si le mec n'était pas malade, justement, s'il n'avait pas des taches, ceci, cela. Même une chaise, si quelqu'un d'impur s'était assis sur la chaise et que lui-même se mettait dessus, il était lui-même impur. De faire attention aux vêtements qu'il touchait. De faire attention à tout. Un juif réfléchissait à tout ce qu'il faisait, dans la crainte de ne pas devenir impur. Et Jésus va lui dire, tu imposeras les mains aux malades. Et Jésus a donné l'exemple. Quand il a vu un lépreux, il a mis ses mains, il a imposé les mains. Oh, mais t'es fou! Non seulement tu es contaminé, mais tu seras impur! Qu'est-ce qui est le pire? On ne sait pas. Et quand il y a eu cette femme prostituée qui a touché les pieds de Jésus, mais le pharisien, le religieux, oh, si cet homme a été vraiment un homme de Dieu, il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Il savait de quelle espèce est cette femme. Waouh! Mais un homme digne, un juif digne ne se laisse pas toucher comme ça. Et Jésus va dire à ses disciples, dans tout ce contexte, où la maladie était certainement plus répugnante qu'aujourd'hui à voir, où il y avait tout un code de relationnel, on ne pouvait pas toucher n'importe qui de peur d'être nous-mêmes impurs, Jésus va leur dire à ces gens, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, la fin de la phrase, on comprend que c'est Dieu qui guérit. Mais il n'empêche qu'il faut réaliser que quand Jésus nous demande, vous imposerez les mains aux malades, il a une attente de la part de Dieu, de notre implication. De notre implication. Oh, pardon. Et donc, il y a là, dans l'imposition des mains, un symbole fort. Est-ce que nous serions prêts à mettre nos mains sur un lépreux? Est-ce que nous serions prêts à toucher la puanteur? Est-ce que nous serions prêts à toucher celui qui est sale, qui est crasseux, à celui qui sent mauvais? Est-ce qu'on serait prêt à nettoyer un homme qui se serait fait pipi ou caca sur lui et il faudrait prendre soin de lui? Est-ce qu'on serait prêt à toucher ses cheveux qui sont peut-être plein de crasse? Mais c'est ça que le Seigneur nous demande d'avoir dans cette mentalité, dans cette autorité spirituelle. Oh, j'ai le pouvoir de guérir, mais toi tu as le pouvoir de poser tes mains. Pas le bout des doigts. Il y a dans l'acte d'imposer les mains un symbole fort, qui est un symbole d'association de cœur.
Amen.
Et de communion.
Amen.
De foi. Quand on impose les mains, c'est un symbole d'association. Il nous est demandé, comme en Romains chapitre 12, verset 15, de pleurer avec ceux qui pleurent. Il est facile de dire, ouais, je vais prier pour toi, mais reste là, s'il te plaît, parce que c'est chaud. Mais non, il nous demande de nous rapprocher de la personne, de rejoindre l'individu dans sa souffrance, de faire corps avec lui, de pleurer avec lui, de sentir sa souffrance avec lui, d'user de compassion.
Amen.
De vivre avec lui cette souffrance, cette meurtrissure, sa douleur. On ne peut pas prier pour les malades avec un détachement superficiel et soi-disant spirituel. Ce n'est pas un détachement. On voit Jésus qui pleurait sur les foules. Jésus pleurait, il était ému de compassion. Et quand tout le monde pleurait parce que son ami pleurait, et bien lui aussi il pleurait devant la détresse qu'il pouvait y avoir dans les cœurs. Nous devons apprendre, pas à nous attendre à la guérison, nous aussi attendre, mais à avoir cette compassion.
Amen.
Nous devons également réaliser que dans cet acte d'imposition des mains, il y a un symbole, celui de la communication de la foi, celui de la communication de la grâce de Dieu. Oui, je viens jusqu'à toi. Et je te rejoins dans ta souffrance, je veux te rejoindre dans ta douleur, je veux te rejoindre dans ton besoin. Mais moi, je t'accompagne et je te communique la grâce de Dieu. Je t'accompagne et je te communique la douceur de Dieu. Je viens et je pose sur toi, non pas mes mains, mais je voudrais que la grâce de Dieu vienne vers toi. Il y a cette phrase qui est tellement belle, quand Pierre et Jean vont au temple, et là, il y a ce boiteux. Et écoutez ce qu'il dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Mais ils avaient réalisé qu'ils avaient une autorité, qu'ils avaient une grâce, qu'ils avaient le potentiel de Dieu, qu'ils avaient une bénédiction à communiquer. Ce que j'ai, je te le donne. Dans cet acte d'imposition des mains, lorsque l'on prie pour quelqu'un, il faut que nous ayons le désir de communiquer, de donner. La générosité, c'est la seule chose que l'on peut donner et qui nous enrichit davantage. Mais nous devons apprendre à donner. Mais j'ai pas d'or, mais c'est pas ça. C'est pas avec l'or. Le monde n'a jamais autant d'or, il n'a jamais autant d'hôpitaux, il n'a jamais autant de malades. Alors. Mais si nous devons apprendre quelque chose, c'est la compassion.
Amen.
Et la communication de ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il vous a donné toute cette autorité spirituelle. Il vous a donné cette grâce de communiquer quelque chose. L'imposition des mains. Ce don-là nous amène à réaliser que la foi est agissante par l'amour. Ah, j'ai la foi pour la guérison, c'est bien. Mais la foi, elle est agissante par l'amour. C'est un déclencheur. Mets la phrase après, peut-être, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Comprenons bien une chose au travers de cette imposition des mains. C'est que la foi donne la direction et l'amour donne la motivation. Qu'est-ce que je veux dire par la foi donne la direction? C'est que la foi nous ouvre les yeux sur le champ qui est devant nous, sur les capacités, sur l'opportunité, sur la richesse, sur l'abondance de ce que Dieu nous a accordé. Mais on peut savoir une chose et ne pas rentrer dedans. Mais l'amour est comme un moteur, avec la motivation, avec l'élan. Et il faut que nous associons la foi. Oui, je sais que Dieu guérit. C'est bien. Mais il faut que nous y associons notre cœur, notre compassion, notre
amen,
entrain.
Amen, amen.
Et alors si j'ai de l'amour pour celui qui est dans la douleur, si je réalise la souffrance de telle personne à cause de sa situation de maladie, alors je vais prier avec elle. Mais mon amour va faire que ma prière va être rendue efficace, elle va être rendue agissante. Parce que la foi est agissante par l'amour. D'où tout cet enseignement de Jacques, de Paul, sans l'amour on n'est rien, rien. Tu sais plein de choses mais c'est super pour toi, mais quand tu rentres chez toi et que tu pries pour le malade parce que tu es bien installé dans ton canapé et que tu dis Seigneur tu mets des machins qui est malade, elle est où la prière fervente? Elle est où l'amour qui va donner du moteur à notre foi? Amen. Ça, on a un futur prédicateur, c'est bon ça. Merci Seigneur. La Bible nous explique que Dieu, et c'est toute l'histoire de la Bible, Dieu a toujours agi par amour. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Dieu a tant aimé le monde, c'est par amour qu'il a donné. Dieu agit par amour. Tout ce qui existe, c'est par amour qu'il a créé toute chose. Donc nous devons fonctionner pareil. Si nous gardons, si nous voulons grandir dans la vie spirituelle et dans l'autorité spirituelle. Gardons à l'Esprit Saint. La foi me donne la direction. mais c'est l'amour qui me donnera la motivation. Et les deux sont inséparables. Vous pouvez avoir une super voiture, mais si vous n'avez pas le moteur, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Vous avez un super moteur dans votre garage, mais s'il n'y a pas le système, la voiture, la carcasse qui va avec, ça ne va pas vous mener à grand-chose. Et c'est exactement la même chose. La foi et l'amour sont, quand ils s'unissent, communiquent une autorité spirituelle. Et je voudrais juste le rappeler que ce n'est pas seulement dans le domaine de ce matin, mais c'est vrai dans chaque domaine de notre vie. Et je voudrais là juste m'amuser à revenir, ce sera une sorte de retour sur ce qui a été vu, et tout en mettant bien que la foi et l'amour sont vraiment ce qui nous permet de vivre cette autorité. On a vu le premier domaine d'autorité que Dieu nous a donné, c'est celui de chasser les démons. Il faut que je place ma foi dans le fait qu'effectivement Dieu m'a donné sa puissance pour chasser les démons. Amen. Il faut que je réalise que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, que Christ a vaincu, qu'il a détruit les œuvres du mal. Il faut que ça, ce soit ma foi qui se nourrisse de ça. Mais il me faut de l'amour par rapport à tous ceux qui sont esclaves de ça, à tous ceux qui jour et nuit, régulièrement, sont des gens qui sont victimes de ces oppressions spirituelles, qui sont possédés, que la médecine essaie de shooter par des médicaments qui les rendent encore plus terriblement abrutis ou cassés ou détruits ou amorphes. Si nous n'avons pas l'amour, la compassion pour ces gens-là, alors oui, on pourra toujours dire « Oh, Jésus, chasse les démons !» Mais ce sera notre amour qui fera la différence. L'amour et la foi pour parler en langue. Mais oui, la foi pour réaliser que c'est un tremplin, que le fait que je parle en langue est pour moi un tremplin spirituel. Il faut qu'on réalise que quand on parle en langue dans notre intimité, il y a une puissance spirituelle dans les lieux célestes. Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas, mais c'est un langage spirituel. C'est un langage qui permet de faire du dynamitage dans les lieux spirituels, qui nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu. Notre esprit est soudainement là, saisi par l'Esprit de Dieu, et on se laisse inspirer, conduire. Ça, c'est la foi. Mais il me faut de l'amour. L'amour pour la vie spirituelle, tout simplement. L'amour des choses d'en haut. L'amour du royaume de Dieu. L'amour de découvrir des choses plus fortes. L'amour de vivre... Vous savez, il y a un verset qui dit que dans la fin des temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais il est où votre plaisir? Si votre amour, il est dans les choses d'en haut, alors vous allez avoir envie de parler en langue. Vous allez avoir envie de faire des expériences chez vous. Vous allez avoir envie de retrouver le Seigneur dans votre champ. Vous allez avoir envie de connaître des temps de visitation. Et pas seulement des temps de caresse, mais des temps de transformation. Amen. Il faut la foi et l'amour pour saisir les serpents. Je vous rappelle que les serpents, c'est toutes ces choses qui... Le serpent, symbole du diable, c'est toutes ces choses qui voudraient s'immiscer dans notre vie et pour nous laisser un venin, pour nous faire mal. Et il nous faut cette autorité, cette foi, pour réaliser que Dieu nous a donné de l'autorité contre toutes ces pensées, toutes ces mauvaises idées, contre ces insinuations. Il nous faut réaliser que Dieu nous a donné de l'autorité contre nos peurs, contre nos culpabilités, contre nos découragements, contre tout ce qui voudrait là nous enlacer, nous anesthésier, nous impressionner. Non, je réalise que celui qui est en moi, que la force du Saint-Esprit qui est en moi, me permet de ne pas me laisser dominer par ces choses-là. Mais je marche dans leur tête, je les prends, je les bazarde. Ces choses-là. Parce que je ne veux pas être victime de ma vie, mais je veux être acteur de ma vie. Je ne veux pas me laisser piétiner par l'adversaire, mais je sais qu'il a été piétiné. Et c'est ça, saisir les serpents. Il me faut cette dimension de foi, mais il me faut aussi cette dimension d'amour, parce qu'on sait que tous ces serpents que le diable envoie avec tant de délicatesse dans nos vies, de manière toute silencieuse, comme un serpent sait si bien venir, il nous les envoie. Et là, je vous invite à écouter sur le site si vous n'étiez pas là, mais à nous faire sortir de nos positions spirituelles. Vous vous rappelez la cible? Oui. Avec les fléchettes? Nous, le Seigneur nous a mis en Christ. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes au centre, nous sommes en lui. Et le diable, lui, il a essayé de nous faire sortir de plus en plus loin du centre. Et si ça peut nous garder une bonne conscience, il va nous laisser encore dans la cible, le plus loin possible, pas tout à fait dehors pour qu'on ait encore l'assurance du salut, mais plus dans la victoire, plus dans le fruit, plus dans l'abondance, plus dans la victoire, plus dans la joie, plus dans la bonté, plus dans l'allégresse, plus dans l'enthousiasme. Et c'est ça une vie chrétienne. Si ce n'est pas ça, c'est pas une vie chrétienne. C'est une vie où on essaye de se rapprocher de la vie chrétienne. Mais Dieu nous a assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Amen. Amen. C'est là notre position. Et donc il nous faut de l'amour pour vouloir demeurer dans cette relation-là. Si nous aimons le McDo plus que la présence de Dieu, c'est un petit serpent. Le serpent du plaisir. Le serpent de la paresse. Le serpent de la oisiveté. Le serpent du confort. Ben oui, il y a des serpents qu'on connaît bien. Oui, la peur, la culpabilité, tout ça. Oh, ouais, ça me fait mal au cœur. Mais vous inquiétez pas, si ça vous fait mal au cœur, le diable va vous trouver une petite pommade anesthésiante. Ça existe, ça, vous savez. Des pommades, vous passez là, vous n'avez plus de douleur. Ah, trop bien. Mais quand vous lisez la parabole du semeur, il nous est parlé là, dans ce terrain-là que les richesses étouffent la semence. Le confort nous étouffe. Soyons conscients. Oui. Donc il faut aussi que nous réalisions que nous avons besoin de cette foi pour saisir ces serpents, les balancer de notre vie, ne pas nous laisser la manipuler par les circonstances. Mais il me faut aussi cet amour parce que je veux rester dans une relation pure, claire avec le Seigneur. Amen. J'en ai marre de ces parasites, j'en ai marre de ces choses qui essayent de me tromper, qui essayent de me distraire. Je veux rester dans ma position spirituelle parce que c'est en Christ que je suis le plus heureux. Amen. La foi et l'amour pour boire la coupe mortelle, comme nous l'avons vu la dernière fois. Une coupe qui aurait pour but de nous détruire. Et ça, ce sont les épreuves de la vie. J'ai presque envie de dire les grosses épreuves de la vie. Celles qui pourraient nous casser, nous briser. Celles qui pourraient nous faire quitter l'Église, quitter la relation avec le Seigneur. Celles qui suscitent au-dedans de nous cette mort spirituelle. La foi, pour nous rappeler que Dieu est au contrôle de toute chose.
Amen. Amen.
Mais surtout, la foi que Dieu transforme le mal en bien. Je ne sais pas quelle est ton épreuve, mon frère. Je ne sais pas quelle est ton épreuve, ma sœur. Ce que je sais, c'est que cette coupe, tu vas la boire. Tu es obligé. Dans chacune de nos vies, on va boire cette coupe qui aura pour but de nous détruire. Mais mets dans ta foi, dans ton cœur, dans ta dimension spirituelle, que Dieu va transformer ce mal en bien. Amen. Et c'est ça le miracle de Dieu. Et c'est pour ça qu'il permet les épreuves. C'est pour ça qu'il permet que nous soyons jusqu'à nos limites. Parce qu'il sait que ce mal-là, demain, ce sera un bon, un bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il nous faut cette foi pour réaliser que dans cette épreuve, Dieu transformera ce mal en bien. Mais il nous faut cet amour. Parce que dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté, le seul refuge, ce sera la présence de Dieu.
Amen. Amen.
Votre seule consolation, ce sera la présence de Dieu. Ce ne sera pas la prédication du pasteur, il vous cassera même les pieds ce jour-là, vous verrez. Ce ne sera pas les frères et sœurs, parce que ce sera juste ce jour-là qu'il y aura la petite phrase de trop. Le seul refuge, la seule consolation, la seule chose où vous pourrez puiser quelque chose qui vous maintiendra encore une journée de plus, ce sera l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la douceur de Dieu, la paix de Dieu. Ce sera comme un oasis au milieu de votre désert. Mais il faut cet amour-là. Et la foi est l'amour pour la guérison. La foi, parce que si nous prêchons la guérison, ce n'est pas parce que nous sommes des mystiques, mais parce que, comme l'a rappelé notre frère dans sa prière, par rapport à la scène, c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison.
Amen.
C'est aucun mérite. On n'est pas dans une vague de publicité évangélique où soudainement on va croire que la guérison c'est un truc nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Dieu est compatissant. Il ne veut pas que l'homme soit dans la maladie. La maladie c'est le fruit du péché. Et Christ à la croix a réglé le problème du péché. Spirituellement, pour notre relation avec Dieu, et physiquement quant à la maladie. Alors j'ai foi que Christ, par ses meurtrissures, a communiqué la guérison. Amen. Et je veux cet amour. L'amour pour les âmes qui souffrent. Parce que je ne veux pas rester insensible devant quiconque est dans la souffrance. Alors c'est pourquoi, vous vous rappelez, du verset 14. Rappelez du reproche que Jésus avait fait à ses disciples avant de leur ouvrir les yeux sur leurs autorités, sur l'autorité spirituelle. Il leur a reproché leur incrédulité, leur manque de foi, et leur a reproché leur dureté de cœur. Et c'est la même chose pour nous. Si nous voulons aller plus loin et si nous voulons rentrer dans cette dimension, essayez la petite flèche en haut. Si nous voulons rentrer dans cette dimension et progresser dans cette autorité spirituelle, alors nous devons travailler à développer la foi, à développer l'amour.
Amen.
Et c'est vrai que la Bible nous montre aussi d'autres pistes. Je serai bref pour ne pas m'étaler dessus, mais c'est un béaba évangélique, dirais-je. Et la Bible nous montre également que ce qui amoindrit l'autorité spirituelle, c'est le péché. Le péché et la désobéissance. Il n'y a qu'à lire le livre des rois, le livre des chroniques dans l'Ancien Testament. Et vous avez toute une succession de rois. Et c'est toujours la même histoire. Tant qu'ils étaient fidèles à Dieu, qu'ils se détournaient des idoles, qu'ils cherchaient la volonté de Dieu, qu'ils obéissaient à leur Seigneur, aux commandements et aux lois, ils étaient forts et le royaume était en paix.
Amen.
Et chaque fois qu'ils se détournaient de l'Éternel, qu'ils se laissaient aller à l'orgueil, à l'idolâtrie, à l'adultère, à l'insouciance, ils chutaient. Et là, il y avait des guerres, des conflits. Ils étaient menacés par les ennemis extérieurs. Et on a un exemple qui est comme caricatural, c'est David. Pourtant, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme choisi. C'est l'homme qui a toujours cherché à plaire à Dieu. David, il était tellement intègre, il était tellement dans la communion avec le Seigneur, dans l'obéissance du Seigneur, qu'il nous est dit que chaque fois que David allait au combat, il était victorieux. Il y avait même une chanson dans le pays. « Oh, Saül, on a battu 1000 et David, il a battu 10 000 !» L'autre, il était jaloux de jalousie, d'ailleurs. Il était rouge de jalousie. C'était proverbial, quoi. David, c'est le vainqueur. Il y a un combat, on y va, il gagne, quoi. Et le jour où il a péché, et où il s'est endurci dans son péché, sa vie a été complètement différente. Bien sûr, il s'est repenti. Il s'est repenti. Tardivement. Et on pourrait se dire, bon, bah, tout est rentré dans l'ordre. Pas du tout. La vie de David a plus été glorieuse après. C'est plus la même chose. Des luttes à l'extérieur, des luttes à l'intérieur. De la tristesse, de la désolation, des difficultés familiales, des difficultés dans le pays. Il y en a avant et un après. Pourtant, on pourrait se dire, mais il s'est repenti. Mais à part que le péché, ça fait une marque. Ça fait une marque. Ça blesse. J'ai cru entendre que quand on est un grand sportif, ben on n'est plus forcément le même une fois qu'on a une grosse blessure dans la vie. Même si on fait de la rééducation, qu'on s'entraîne, etc., il y a une faiblesse et une fragilité, et certains ne retrouvent plus le niveau qu'ils avaient avant. Ne rigolons pas avec le péché. Et c'est pour ça que le diable envoie tous ces petits serpents. Oh, ça a l'air de rien, un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et on finit par s'amadouer presque. Et dire, bah, c'est rien, c'est qu'un petit péché. Mais il n'y a pas de petit péché. Il y a juste du poison qui nous font perdre de l'autorité spirituelle. La sainteté n'est pas une contrainte, mais c'est une force.
Amen.
Trop de jeunes disent « Ah oui, mais moi, si je donne moins vieux, Seigneur, je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela. » Mais c'est faux, t'as droit. Mais réalise que la sainteté va te donner de la force, va te donner de l'autorité, va te donner de la sagesse, va te donner du discernement, va te donner des capacités. Réalise que par la sainteté, tu auras des portes qui vont s'ouvrir que le péché te fermerait. La sainteté n'est pas une contrainte, la sainteté est une force, une protection, un bouclier. J'entends de temps en temps quelques chrétiens qui parlent de leur vie passée avec nostalgie. Ah, quand j'étais jeune, ah, de mon temps, ah, j'avais le feu. Ah oui, mais vous savez... Puis ils vous disent ça avec un petit détachement, ou avec une petite tristesse. Mais la vraie question à se poser... C'est est-ce que dans ces temps qui se sont écoulés, Est-ce qu'on n'a pas laissé quelques serpents venir?
Ah oui, mais avant.
Est-ce que pendant tout ce temps-là, tu n'as pas laissé quelques serpents, laissé quelques œufs qui avec le temps se sont éclos et multipliés?
Ah oui, mais avant j'avais le feu.
Et aujourd'hui, Dieu a changé. Dieu est parti en vacances. Dieu est en congé, en RTT. Réalisons aussi que si nous acceptons un peu de péché dans notre vie, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il ne faut pas beaucoup de sel dans notre plat pour changer son goût. Et le péché a forcément un goût bon au début.
Mais oui.
Il y a forcément un petit goût. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Alors on le tolère. Il y aura, c'est rien. On pourrait même se dire, oui, mais je vais me repentir. Il nous est parlé du roi Saül. Il nous écrit textuellement que malgré son repenti, Dieu ne peut rien pour lui. N'allons pas trop loin, ne jouons pas avec le péché. Le salaire du péché, inévitablement, c'est la mort. Qu'elle soit longue ou courte, rapide ou longue, ne jouons jamais avec le péché. Amen. En conclusion, rappelons-nous que l'autorité est une conséquence de notre foi, de notre amour et de notre sanctification. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'une hygiène de vie spirituelle.
Amen.
Il n'y a qu'un positionnement, il n'y a qu'un attachement au Seigneur. Oui, nous sommes dans un monde qui cherche à nous sortir de cette position spirituelle. C'est le rôle du diable. Mais nous, nous devons être comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je suis resté dans mon positionnement. Et que nous ne soyons pas non plus là à nous tromper dans les priorités. C'est en Apocalypse chapitre 3 verset 8 où Dieu va dire à une église: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen.
Amen.
Ne recherchons pas la puissance. Recherchons à être fidèles au Seigneur.
Alléluia.
Fidèles dans notre maison, fidèles dans nos relations, fidèles à l'Église, fidèles dans nos engagements que nous avons pris avec lui. Fidèles dans les petites choses, dans les grandes choses. Soyons fidèles. Dieu va dire, tu as peu de puissance, c'est vrai. Mais j'ai vu ta fidélité.
Alléluia.
Et j'ai placé devant toi une porte qui est ouverte. Amen.
Amen.
Alors chassons de notre vie toute forme de culpabilité, de crainte, d'appréhension. Réjouissons-nous. Confessons nos péchés au Seigneur, car un repenti sincère, profond, Dieu efface, et que nous soyons fidèles, intègres, que nous recherchions la foi, l'amour, que nous gardions dans la sainteté.